Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Agnès Michel.
Bonjour.
Bienvenue, membre du comité éditorial de Terra Nova. Vous avez publié le petit manuel à l'usage de ceux qui paient des impôts et voudraient bien savoir pourquoi. Chez Rue de l'Échiquier, il y a peut-être ceux qui vont en payer plus aussi et qui se demandent pourquoi. Agnès Verdier-Molinier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directrice de la Fondation IFRAP, et vous avez publié Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir, aux éditions de l'Observatoire. On va en parler tout de suite avec l'ambition de Bruno Le Maire en matière des dépenses publiques. Jérôme Dédéon, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Associé de tous en mesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, c'est du conseil en gestion de patrimoine pour tous. Réduire les dépenses publiques dès 2024, c'est ce que martèle Bruno Le Maire depuis des jours. Ne jamais, jamais, au grand jamais, augmenter les impôts, en tout cas, tant que je serai là, dit le ministre de l'économie. Agnès Verdier, est-ce que vous avez envie, cette fois-ci, d'y croire ? C'est le combat de votre vie. Est-ce que vous vous dites, c'est le ministre des Finances qui a le mieux résisté dans la durée en Europe aujourd'hui, il en est à plus de 6 ans. Est-ce qu'on se dit, ça y est, cette fois-ci, on va y arriver. Il semblerait qu'il veuille ramener les dépenses publiques à 54% du PIB dès l'année prochaine.
Bien sûr qu'on a envie d'y croire et on a raison d'y croire. Pourquoi ? Parce que on va pas rester scotché à 57 ou 58% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, alors que les autres pays sont bien en dessous. Donc évidemment qu'il faut y croire. Ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme on l'espère, mais on a un potentiel de baisse de la dépense qui est de l'ordre de 60 à 100 milliards dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que quand on se compare avec les autres pays, on a 262 milliards d'euros de dépenses en plus tous les ans.
Mais on sait pourquoi, Agnès Verdier.
Oui, on sait, bien sûr.
On a un système socialisé qui est spécifique à la France, et voilà.
Oui, mais on sait aussi, Nicolas, que ça nous coûte environ 80 milliards de plus par an pour produire nos services publics par rapport aux autres pays comparables en Europe. C'est l'OCDE qui le dit, c'est le coût de production de nos services publics. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a énormément d'acteurs publics qui travaillent sur les mêmes politiques publiques, sur les mêmes missions publiques. C'est beaucoup mieux réparti dans les autres pays.
On parlait des doublons, notamment entre la fonction publique d'État et la territoriale.
Oui, on le sait. Par exemple, tout le monde s'occupe d'éducation, tout le monde s'occupe de culture, tout le monde s'occupe plus ou moins maintenant un peu de santé, et on ne sait plus trop qui est le pilote dans l'avion, entre les ARS, le ministère, etc. Et quand on voit ce qui se passe à l'étranger, on voit qu'ils ont beaucoup mieux réparti les missions publiques. Et on avait chiffré dans une étude pendant les débats présidentiels de 2022 qu'on pouvait transférer une centaine de milliards de l'État central vers les collectivités locales, et rien qu'avec ça, derrière, on économisait presque une quarantaine de milliards d'euros par an. Donc, des économies, il y en a énormément. On le sait, on sait très bien qu'on a un problème de productivité aussi dans les services publics. On connaît des taux d'absentéisme énormes dans nos administrations locales, notamment à la Fondation IFRAP. On a fait appliquer les 1607 heures qui sont les 35 heures dans les collectivités locales. Avant, c'était même pas appliqué. Les agents étaient payés 35 heures, mais ils réalisaient moins que 35 heures, 32 heures, 33 heures. Ça dépendait des collectivités locales. Donc, on a des capacités de finalement réduire la dépense, mais après, derrière, c'est la dépense sociale aussi. Et ça, vous l'avez dit, le sujet, c'est aussi toutes les aides sociales qu'on verse en cumulé, avec des niveaux d'aide qui vont atteindre les 130 milliards d'euros par an en aide sociale versée sous critères de ressources. Et là, il y a un sujet, et je pense que le gouvernement va le prendre en main, c'est le sujet de ceux qui sont éloignés de l'emploi, mais qui finalement ne sont pas du tout accompagnés vers l'emploi, alors que des entreprises cherchent pour embaucher. Il n'y a que 40% des personnes qui sont au RSA qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc, il y a de la dépense sociale, il y a de la dépense de fonctionnement qu'on peut réduire. Il suffit, à un moment, de s'y pencher. On attend beaucoup de la revue de dépenses qu'a annoncé Bruno Le Maire.
Voilà, c'est la nouveauté, la revue de dépenses, et puis le fait de faire intervenir plusieurs chefs de cabinet du gouvernement pour passer au peigne fin l'ensemble des administrations. Agnès Michel, vous croyez qu'il y a la possibilité de réduire le poids de la dépense publique sans augmenter la fiscalité ? Parce que finalement, les recettes d'Agnès Verdier, j'ai envie de dire, je les connais, je les ai entendues, mais on peut les répéter à chaque mandature, s'il ne se passe rien. Comment vous regardez cette histoire ?
Alors déjà, je voudrais rebondir sur effectivement quelque chose que je partage, parce que je partage au moins une chose sur ce que vous venez de dire. C'est la décentralisation qui est toujours repoussée, voire en régression, hein, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, enfin les différents gouvernements Macron ont plutôt opté pour réduire les ressources directes des collectivités, directes, même si direct est un terme un petit peu abusif, mais la taxe d'habitation, par exemple, des collectivités territoriales. Il faudrait une clarification sur les ressources des collectivités territoriales, donc une vraie décentralisation, une vraie fiscalité lisible pour les citoyens qui sauraient à quoi les choses servent sur leur territoire. Après, sur l'éducation, c'est relativement clair, hein, quand même. C'est évidemment les communes qui s'occupent de la petite enfance. Ensuite, on a les départements pour le collège.
Oui, mais j'ai toujours trouvé ça étonnant qu'il y ait autant d'acteurs.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a cette espèce de mélange, de la même façon que sur la taxe énergie, il y a une partie qui revient aux régions, une partie... Tout ça est illisible et il est certain que ça mériterait d'avoir une transparence, ce serait beaucoup plus démocratique. Donc là-dessus, il y a un premier, effectivement, levier. D'accord. Alors, économie, à quel niveau, à quelle durée, sur quelle échéance, je veux dire, ça, je n'en sais rien, mais parce que les mises en place sont toujours difficiles à mesurer. Le Sénat avait dit qu'il y aurait peu d'économies dans la fusion, par exemple, du département et des régions. Donc là-dessus, les avis sont
semblerait sont assez, que le Sénat ne se soit pas trompé.
Sont assez divergents, donc je serais mesurée sur les économies à court terme, en tout cas. Néanmoins, en termes d'efficacité et en termes de transparence démocratique, ce serait un plus. L'autre levier pour les réductions de dépenses publiques, ce serait supprimer un certain nombre de dépenses fiscales, dites les niches fiscales. Ah. Alors après, on peut avoir une discussion sémantique sur le fait de dire que ce sont des augmentations d'impôts, sauf que non, puisque ce serait la fin de baisse d'impôts.
Oui, donc, Agnès,
je sais, il y a toujours un chien qui aboie.
Non, c'est pas ça. Mais quand on coupe une niche fiscale, quand on la ferme, quand on l'abroge, il y a forcément quelqu'un qui en pâtit parce qu'il en bénéficiait et pour lui, ça revient à une hausse d'impôts.
Bien sûr, mais la question, c'est pourquoi on en arrive à un tel cumul. On sait très bien qu'il y en a pléthore, qu'un certain nombre. D'ailleurs, c'était un travail qui avait été engagé par le gouvernement.
Il y a autant d'impôts qu'il y a de niches.
Oui, mais c'est à un moment donné, ça veut dire deux choses. Bon. Ça veut dire soit que l'impôt a été mal conçu,
oui, mais c'est
soit
le cas, oui.
que certaines personnes, justement, aboient même avant la niche, suffisamment fort pour signifier leur impérieuse nécessité d'exception. Alors, et ça se discute.
Bruno Le Maire, lui, refuse catégoriquement l'idée que des impôts monteraient. Alors que ce soit carrément des hausses d'impôts décidées ou des hausses d'impôts par des baisses de dépenses fiscales.
Oui, mais dans ce cas, le débat, il est biaisé à la base. Alors, on est quand même sur 10% environ. Ces dépenses fiscales, elles représentent pas loin de 200 milliards. Si on n'aborde pas ce sujet-là, on n'aborde pas tous les sujets et c'est de l'hypocrisie.
Il faut peut-être aborder tous les sujets. On pourrait dire qu'on a quasiment autant d'impôts sur la production qu'il y a de niches en face, à peu près. Les montants sont relativement proches, mais.
C'est un très bon angle, celui que vous venez de donner, Nicolas. En fait, moi, je ne suis pas aussi fin connaisseur des méandres de notre fiscalité, de notre système de protection sociale.
C'est trop compliqué pour être un fin connaisseur. Mais, ils sont peu nombreux à être fin connaisseurs.
Voilà, il y a, alors on connaît quand même des choses, il y a quand même un truc simple. C'est que quand on parle de dépenses publiques ou d'équilibre des comptes publics, il y a les dépenses et puis il y a les recettes. Et pour agir sur l'équilibre, il faut normalement augmenter l'assiette taxable pour que, à fiscalité inchangée, voire plus légère,
les recettes augmentent.
On ait plus de recettes. Et donc, ça veut dire que quand on a 57% de dépenses publiques dans le PIB, si on supprime des niches fiscales, on va se retrouver à 60%. C'est ça le truc. Or, il y a une analogie que j'aime bien, elle est un peu brutale, mais qui est une expression de Xavier Fontanet, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais là j'étais assez truc. Il parle de la dépense publique française en disant ce jockey obèse qui fouette son cheval. Et je trouve que c'est relativement intéressant. Parce que la comparaison internationale, elle est là. On sait très bien que si on faisait baisser, parce qu'on dépensait mieux, plus efficacement, de tous les côtés, qu'on enlevait les redondances, notamment la réforme territoriale, elle est essentielle, on a raté nos décentralisations, on allégerait la pression et donc on laisserait l'assiette privée se développer, et donc on aurait plus de recettes à poids de la fiscalité et des dépenses sociales à changer.
C'est un peu un objectif de la réforme.
Un sujet français, hein, je vais pas
augmenter le taux d'activité.
Voilà, et il y a juste un sujet français particulier, c'est qu'on a un système de protection sociale extrêmement développé auquel normalement les Français sont très attachés. En même temps, ça fait longtemps qu'on leur a pas demandé démocratiquement quelles étaient leurs priorités sur l'essentiel qu'on doit préserver dans ce système de protection sociale ou renforcer. Et moi, j'ai une vision, c'est qu'en fait, on a en ce moment des dizaines de professeurs Nimbus qui nous expliquent, prétendument économistes, qui nous expliquent qu'il faut augmenter la pression fiscale sur les plus riches. Moi, je crois qu'il faut augmenter la pression sociale sur les plus riches. Je m'explique. Je pense qu'il faut bétonner, renforcer notre système de protection sociale pour les plus modestes. Et je pense qu'il faut accepter que les plus aisés vont payer leur médecine de leur poche un peu plus cher. Et éviter de toucher à la fiscalité, mais leur demander de faire un effort plus élevé sur la partie sociale. À condition que le débat posé aux Français ou la question posée soit claire, en disant quelles sont vos priorités dans la dépense publique et notamment côté social, qu'est-ce que vous voulez préserver ou renforcer et à quoi êtes-vous d'accord pour renoncer ?
Agnès Verdier, vous vouliez réagir à ce qui a été dit, je ne sais pas dans quel sens, je vous laisse repartir.
Non mais vous avez dit, Nicolas, à un moment, il y a autant de niches fiscales en faveur des entreprises que de taxes de production.
On n'est pas loin, on n'est pas loin de quelque chose qui se ressemble.
On a fait une étude à la Fondation IFRAP, on montre qu'il y a 148 milliards d'impôts payés en plus sur la totalité des prélèvements obligatoires par nos entreprises par rapport à la zone euro hors France.
Donc nos entreprises payent 148 milliards de plus.
C'est ça.
Que les entreprises des pays voisins qui nous ressemblent.
Que la zone euro hors France. Et c'est quand même un chiffre très, très élevé. Et en 2017, c'était 149. Donc 148, c'est en 2021, déjà après le début de la baisse des taxes de production. Ça fait 13,2 points de PIB et pour la France, et ça fait 7,3 points de PIB pour la moyenne zone euro. Et quand vous dites finalement, si on enlevait les niches fiscales pour les entreprises, etc., c'est un exercice qu'on a fait à la Fondation IFREP, on enlève les niches fiscales, les niches sociales, là on arrive à 18,9 points de PIB. C'est-à-dire que si on commence à dire, on enlève des niches fiscales ou des niches sociales qui permettent de payer moins de cotisations sur les salaires, etc.
En parallèle, il faut baisser les prélèvements obligatoires.
À ce moment-là, on a une explosion. Parce qu'on est presque à 19% par rapport au PIB d'impôts pour nos entreprises, alors que la moyenne, c'est autour de 7% dans la zone euro. Donc, si on veut vraiment se tirer des balles dans le pied, il faut aller dans ce sens-là. D'ailleurs, je rappelle que, contrairement à ce qu'a dit Gabriel Attal quand il s'est exprimé sur la question de la revue de dépenses, en disant, attention, il ne faut pas que ce soit une austérité, il ne faut pas que ce soit comme ça a
il
été.
Il a très vite réagi après que Bruno Le Maire a dit qu'il voulait réduire les dépenses publiques.
Après la crise financière et tout ça. Même si je pense que, quand même, Gabriel Attal a envie de baisser les dépenses parce qu'il voit bien la situation de son poste. La situation des finances publiques françaises qui est absolument catastrophique. Mais il a bien dit, attention, on ne veut pas recommencer l'austérité et faire ce qui a été fait après la crise de 2008. Mais en sous-entendant que finalement, qu'on avait trop baissé les dépenses. Et en réalité, on n'a pas du tout baissé les dépenses après la crise de 2008. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a continué à augmenter un peu les dépenses publiques et on a massivement augmenté les impôts.
Oui,
on est passé de 41% de taux de prélèvement obligatoire à 45%.
Oui, ça a été de l'austérité fiscale.
L'austérité fiscale, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est finalement à un moment regarder comment on utilise chaque euro d'argent public. Et c'est ce que font les pays du nord de l'Europe.
J'espère qu'on en est capable.
Si on responsabilise chaque ministre du gouvernement, qu'on lui dit à chacun de regarder comment il peut baisser sa dépense et réorganiser, si on fait une vraie revue des missions publiques, si on responsabilise le Parlement en lui permettant d'avoir un organe d'audit avec, c'est ce qu'on a proposé depuis des années, c'est ce que font les Britanniques.
C'est le travail de la Commission des Finances associé au travail de la Cour des Comptes.
La Cour des Comptes ne travaille pas pour la Commission des Finances.
Mais non, il travaille.
La Cour des Comptes reste à équidistance. D'ailleurs, on l'a vu dans son rapport annuel. C'est très intéressant son rapport annuel, mais finalement, on n'apprend rien.
Non.
On est d'accord ? On n'apprend rien. Et derrière, il n'y a aucune proposition chiffrée. L'année dernière, ils étaient allés un peu plus loin en disant qu'il fallait faire 9 milliards d'euros d'économies par an. Mais là, on voit quoi ? On ne voit pas de proposition chiffrée, on ne voit pas d'issue. Donc en fait, ils disent il faut baisser la dépense, il faut faire une revue de dépenses. Mais finalement, la Cour ne fait pas de proposition. Alors que l'homologue, entre guillemets, de la Cour des comptes au Royaume-Uni, le NAO britannique, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des propositions de baisse de dépenses et il évalue derrière avec le Parlement, avec la Chambre des communes. Il y a une sous-commission de la Commission des finances qui est en charge, qui en permanence regarde les rapports de cet organe d'audit. Et donc chaque euro d'argent public est regardé de manière hyper précise. Alors que chez nous, qu'est-ce qui se passe au Parlement sur ce sujet ? Quasiment rien.
Valérie Rabault, à l'époque, disait qu'elle avait essayé de jouer son rôle de parlementaire de la Commission des Finances, notamment en faisant des descentes carrément à Bercy pour essayer d'aller voir les choses d'un peu plus près.
En 2004 déjà, et même dans les années 90, à la fin des années 90, il y avait eu toute la réflexion autour de la LOLF avec Didier Migaud, Alain Lambert. Bah. Ensuite, on a eu des tas de discussions là-dessus avec Carrez, Meignery, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a jamais renforcé le pouvoir du Parlement parce que finalement, les administrations centrales préfèrent garder les data pour elles, les analyses pour elles et s'auto-évaluer.
Vous expliquez que vous avez vous-même beaucoup de mal à accéder à des documents qui devraient être publics. Bah.
Mais oui, il y a énormément de documents sur lesquels on a travaillé, des rapports de l'Inspection Générale des Finances et d'autres qui devraient absolument être publics. Pourquoi ? Parce que c'est une information vis-à-vis de nos concitoyens. Et par exemple, sur le dossier retraite, ça aurait servi qu'on ait une vraie pédagogie sur le lien entre la réforme des retraites, la question de la dette, la question de la charge de la dette, la question des taux.
Je vais en parler dans un instant. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce chantier que j'entends, mais auquel j'ai du mal à croire, je ne vous le cache pas. Agnès Michel.
Oui, non, ce n'est pas dans la culture française. C'est bien dommage, d'ailleurs, mais ça fait partie de tous les éléments de transparence autour de l'argent, des budgets, des entrées, des sorties. C'est une problématique qu'on a depuis très longtemps, et ça se retrouve sur les questions de décentralisation, de savoir qui décide par rapport à ce qui est payé à chaque instance. Et c'est ça le sujet. Je reprécise quand même, en petite correction, c'est qu'il faut toujours faire attention. Les prélèvements obligatoires qu'il y a dans les prélèvements obligatoires, ce qu'on appelle communément les impôts, ça ne sont pas les impôts. Ce sont les impôts, mais aussi les cotisations sociales. Oui. Les cotisations sociales, ça n'est pas un coût sec pour les entreprises qu'il faut mettre au même plan que les impôts, parce que dans les autres pays, ils les rajoutent en salaire pour que les gens puissent s'assurer de façon privée. Donc, attention à ne pas mélanger les deux. Le problème, ça fait aussi 15 ans que ça dure, et ça serait bien qu'à un moment donné, on ait de la transparence sur ce sujet-là. C'est déplacer le sujet, c'est pas de l'impôt en plus.
Il y a une question d'effet d'agence. Il y a une question de où est-ce que c'est le plus efficace.
Non, mais les cotisations sont considérées comme du salaire différé, vous connaissez l'expression.
Alors à ce moment-là, si on suit votre logique, on devrait avoir des salaires beaucoup plus élevés en super brut en France, et c'est pas le cas.
Bah non, justement.
La réalité, c'est qu'on n'est pas mieux payé. Chez nous, quand le patron paye 100, on récupère que 46 euros à la fin. Alors que dans les autres pays de l'Union européenne, c'est 58.
Bah, évidemment,
on
ne paye pas nous-mêmes notre assurance, c'est parce que c'est pris à la source. Donc c'est évidemment extrêmement logique ce que vous venez de dire. Mais simplement, il ne faut pas confondre. Allez dans d'autres pays, il y a des salaires supérieurs. Ben non.
C'est vrai qu'on a un problème de salaire net dans la mesure où il y a beaucoup de cotisations.
Les salaires nets sont très faibles en France.
Oui, les salaires sont très faibles en France, mais parce qu'il y a une partie des dépenses qui est déjà ponctionnée avant. Donc c'est simplement...
La logique n'est pas hyper claire. Quand on regarde ce qui se passe en termes de création de richesses dans les pays du nord de l'Europe, qui finalement ont des niveaux d'imposition qui sont plus faibles et qui à la fin ont des meilleurs salaires et ont un PIB par habitant qui est quasiment deux fois plus élevé que le nôtre. On est à 60 000 au Danemark, on est à 39 000 en France. On voit bien qu'on est en train de se paupériser en France, et c'est aussi les résultats d'un modèle social qui n'est pas du tout ni évalué, ni restreint, ni finalement soutenable.
Qu'on le réévalue, simplement ne confondons pas entre l'impôt et de l'assurance qui est socialisée. Ça n'est pas la même chose et on ne peut pas comparer.
On ne fait pas la confusion ici, Agnès.
Le compte de résultat final des entreprises ne serait pas aussi divergent que vous le dites, parce que de toutes les façons, il faudrait augmenter dans ces cas-là les salaires pour que les gens puissent s'assurer.
Un truc microéconomique.
J'ai envie de dire 1 minute 30, on marque une pause. Après, on verra l'effet sur l'OAT et on parlera du
Un truc microéconomique assez simple. Ça, il y a un sport national des experts comptables, je connais bien la profession, qui consiste à arbitrer pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Est-ce qu'il doit choisir le statut président ou présidente de SAS, assimilé salarié, ou est-ce qu'il doit choisir gérant d'SARL? Bon. Et donc, dans l'immense majorité des cas, gérant de SARL est plus efficace que président de SAS, à condition, parce que ça dégage des ressources qui vous permettent de financer vous-même le complément de protection sociale, ce qui montre qu'il y a quand même un effet d'agence dans la façon dont la dépense sociale est constatée en France, et qu'on pourrait peut-être être plus efficace en l'orientant mieux, que ça reste public ou non. Il y a de l'efficacité à trouver. Ensuite, pour dire des choses très simples, on a une des meilleures administrations fiscales du monde.
Oui, c'est clair.
Du monde.
C'est
d'ailleurs, on l'exporte, elle va donner des conseils aux autres pays, et
ça,
plutôt
l'impôt,
bien.
Ça, l'impôt, ils savent le
pourquoi? Parce que, alors, je vais pas faire de la philosophie et de l'histoire de bas étage, mais en fait, la construction de la nation française s'est faite sur l'état finance beaucoup plus que sur l'état de droit. C'est prouvé. Il y a plein de gens qui ont fait de la recherche là-dessus, c'est magistralement prouvé. Mais on a un sujet qui est vraiment, pour moi, essentiel, c'est que quand, et ça m'est arrivé dans ma vie d'entrepreneur, et ça m'arrive encore, d'aller défendre un amendement, on va à Bercy défendre un amendement. Les gens de la fonction publique fiscale n'ont pas le droit, si on propose la baisse d'un prélèvement, n'ont pas le droit de calculer le résultat ou l'anticipation de ce qu'on en attend en faisant une hypothèse d'augmentation de l'assiette taxable parce qu'on a allégé quelque chose, il y a quelque chose qui va se développer, qui va être plus large et donc un taux plus bas sur une assiette plus grande va donner plus de recettes fiscales ou va permettre d'équilibrer. Ils sont obligés de raisonner à assiette inchangée. Tant qu'on ne peut pas les faire travailler avec des hypothèses, ils ont des statisticiens extraordinaires, on a le corps de l'ENSAE, etc., des administrateurs de l'INSEE, tant qu'ils ne peuvent pas faire des hypothèses d'augmentation d'assiette quand on baisse un prélèvement, on n'arrivera pas à avoir des politiques de réforme de nos dépenses publiques qui fonctionnent.
Attention, le coin social, il est très en défaveur en France, des hauts salaires.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut redire.
On a déplafonné les cotisations.
Pourquoi ? Parce que quand on a remplacé, par exemple, l'assurance chômage, la cotisation chômage et maladie par de la CSG, il n'y a pas de plafond. Donc, on paye sur des niveaux hallucinants par rapport à ce qu'on a en face en termes de services.